Vous écoutez, on lit pour vous.
La pénurie d'interprètes fait mal aux sourds et malentendants. Un texte de Louise Leduc, paru le 1er juin 2024 dans la presse. Se présenter à une rencontre de parents et être incapable de communiquer avec l'enseignant. Avoir besoin de voir un médecin, s'inquiéter pour sa santé et ne pas savoir si un interprète pourra être à nos côtés lors du rendez-vous. La pénurie actuelle d'interprètes en langue des signes pose de sérieux problèmes au quotidien à Marie-Hélène Hamel et à toutes les autres personnes sourdes ou malentendantes du Québec. Combien manque-t-il d'interprètes? Directrice générale du CIVET, Service d'interprétation visuelle et tactile, Lorena Garrido explique que c'est difficile à chiffrer autrement qu'en disant qu'entre 10 % et 15 % des besoins d'accompagnement ne peuvent pas être comblés. C'est le CIVET, un OBNL, qui a interpellé la presse pour parler de ces pénuries qui sont durement ressenties, comme l'explique Mme Hamel. Dans mon rôle de parent, face à des enseignantes, par exemple, je me sens dévalorisée. Comme citoyenne, je me sens discriminée. C'est comme si je ne comptais pas autant que les autres. Lynn Gargano, qui est interprète depuis 34 ans, s'étonne des difficultés de recrutement. Moi, je suis tellement tombée amoureuse de mon travail, qui est si diversifié. Une journée, j'accompagne quelqu'un à un rendez-vous médical, le lendemain, un autre chez le notaire, dans une entreprise, à la cour, chez le psychologue, en assemblée syndicale, où je suis avec une femme qui accouche. Ça, les accouchements, je pleure chaque fois, d'autant que j'ai normalement accompagné la femme tout au long de son suivi de grossesse. Être interprète, dit-elle, c'est posséder la clé de la communication. Tant que je ne suis pas là, il ne se passe rien. Et cela, c'est très valorisant, mais en même temps, c'est une énorme responsabilité. Lynn Gargano s'ennuyait ferme comme secrétaire, trop routinier à mon goût, quand elle a eu un nouveau voisin qui était sourd. Comme il m'était inconcevable de ne pas pouvoir communiquer avec lui, j'ai commencé à apprendre la langue des signes. À 28 ans, une vocation était née. Mais comme l'explique Cynthia Benoît, directrice de la stratégie du CIVET et elle-même une personne sourde, ce parcours est hautement atypique. En général, les rares candidats désirant devenir interprètes ont eu un parent ou un autre proche sourd ou malentendant. J'ai perdu certains clients. Les pénuries sont telles, relève Mme Benoît, qu'elle-même hésite souvent à réclamer les services subventionnés auxquels elle a pourtant droit, de peur de priver une autre personne d'interprète lors d'un rendez-vous important. Entrepreneur jusqu'à tout récemment, elle fait observer que, faute d'interprète disponible, elle a même dû reporter des rencontres avec les clients, ce qui est très peu souhaitable dans le monde des affaires où tout bouge si vite. Marie-Hélène Hamel, qui est coordonnatrice des services de traduction dans une firme privée, a vécu la même chose. Quand l'interprète n'est pas disponible, le client a tendance à figer, à nous considérer comme moins aptes. J'ai perdu certains clients comme cela. Un long parcours. Madame Benoît regrette que, contrairement aux États-Unis, la langue des signes soit si peu enseignée au primaire ou au secondaire, comme cours à option. Cela dit, ici, les personnes qui songeraient à être interprètes doivent d'abord apprendre cette langue, puis faire une majeure à l'UQAM, la seule université à donner la formation. Au bas mot, c'est un parcours qui prend au moins 7 ans, résume Mme Benoît. Et comme personne ne vit d'amour et d'eau fraîche, ça paye bien? Annuellement, entre 60 000 et 90 000 $, répond Lorena Garrido, et étant donné que les interprètes sont une denrée rare, il y en a qui font bien plus que cela en répondant aux appels d'urgence, en se rendant disponible le soir ou les fins de semaine. C'est cependant un travail cognitivement exigeant, souligne Lynn Gargano, le degré d'attention requis étant très élevé. Au nom de jeunes qui pourraient se sentir interpellés par ce travail, on a osé demander si c'est un métier d'avenir. avec les avancées médicales, avec les implants cochléaires de plus en plus répandus, les interprètes risquent-ils un jour de ne plus être nécessaires? Ils continueront de l'être, répond Cynthia Benoît, parce que dès qu'une personne enlève son implant, elle demeure sourde. Ce n'est pas une panacée. Quand aucun interprète n'est disponible, il reste bien sûr l'écrit. Mais comme le rappelle Cynthia Benoît, le pourcentage d'analphabètes fonctionnels est plus élevé parmi les personnes sourdes ou malentendantes que dans la population générale. Mais au-delà de cela, le français reste une langue seconde pour les personnes sourdes, sourdes aveugles et malentendantes. C'était « La pénurie d'interprètes fait mal aux sourds et malentendants », un texte de Louise Leduc paru le 1er juin 2024 dans la presse.
Est-ce qu'on peut être handicapé à cause des autres? Oui. Un texte de Luc Fortin, paru le 3 juillet 2019 dans Urbania. Je présume que vous aimez lézarder et vous laisser aller, surtout par les temps qui courent. Mais si vous le permettez, j'aurais envie, voire besoin, de vous inviter à une petite réflexion. Question d'agrémenter votre temps en suspension sur votre chaise zéro gravité ou d'alimenter une bonne discussion durant votre prochain road trip. Le genre de question embêtante, un peu castrante, mais combien importante pour des millions de Canadiens. Suis-je une personne handicapante malgré moi? Pourquoi cette question en plein mois de juillet? Parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour se la poser, et surtout, parce qu'il faut que ça change. Disons que les récentes complications d'accès à la nouvelle navette fluviale pour les personnes en fauteuil roulant, à Montréal, ne sont pas étrangères à ce petit dérangement de ma part dans votre quiétude estivale, d'où le titre. J'avoue, j'ai déjà établi dans cette série de textes qu'il me pèse un peu de ne pas voir, mais en même temps je me demande si, dans l'histoire de l'humanité, ce ne serait pas le meilleur moment pour être aveugle. C'est un peu fou, ce qui s'obtient maintenant, qui était encore inimaginable il y a 40 ans. Des films, avec vidéo description, des GPS qui facilitent nos déplacements, l'accès aux journaux écrits, des millions de chansons dans nos poches, l'avènement de la balado-diffusion, de plus en plus de livres plein les oreilles. Et, à en croire la rumeur qui piaffe à plus de 300 chevaux, si je ne meurs pas trop vite, je serai peut-être même propriétaire de mon propre char, avec pas de chauffeur. Si cela s'avérait, les personnes aveugles passeraient de l'implantation d'une méthode pour lire et écrire à posséder leur voiture en un peu plus de 200 ans. Pas aussi draconien que ce qu'ont connu les Esquimaux devenus Inuits, mais quand même assez fulgurante comme progression et pas mal moins abusive, nous en conviendrons. Pourtant, malgré cette progression, quelque chose m'indispose réellement encore comme citoyen. Récemment, j'ai été invité à réfléchir, en marge de la Semaine québécoise des personnes handicapées, chez nous, de la National Accessibility Week, au pays, et de la Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité globale. Une journée soulignée depuis 2012, tous les troisièmes jeudis de mai. L'initiative a été mise de l'avant par Joe Devon. Un élan qui a pour objet d'amener des gens à parler, réfléchir et apprendre sur l'accessibilité numérique, web, logiciel, mobile, etc., et sur les utilisateurs en situation de handicap. La journée vise surtout les communautés du design, du développement, de l'utilisabilité, et toutes celles qui s'y rattachent et qui construisent, façonnent, financent et influencent la technologie et ses utilisations. C'est qu'aujourd'hui, les protocoles et langages informatiques permettent de favoriser l'accessibilité pour aider ceux et celles qui vivent avec des difficultés intellectuelles, neurologiques, d'audition ou visuelles. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2019, il n'y a plus de raison pour que je ne puisse consulter votre site web ou application, qu'il soit de type commercial ou personnel. Il faut simplement qu'il soit configuré en ce sens. Pourtant, trop souvent, des outils technologiques sont mis au point sans tenir compte des besoins de tous. La presse, dans la mise à jour récente de son application mobile, en est un bel exemple. Eux qui se targuent d'offrir un accès à l'information pour tous, nous ont ignorés dans leur nouveau design, pratiquement inutilisable. Et ils ne sont pas les seuls. Plus tôt cet hiver, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain nous apprenait, par son laboratoire de promotion de l'accessibilité du web, que sur environ 1000 sites évalués, la catégorie offrant le résultat le plus favorable n'affichait qu'un maigre 33% de sites jugés passables. Notez l'usage du terme « passable ». Donc un site où je ne peux lire qu'une partie du contenu sans avoir accès au reste. Autre aberration, tenez-vous bien, il s'agit de la catégorie gouvernementale. Comment se peut-il que les sites gouvernementaux ne soient pas systématiquement accessibles? Maudite bonne question, surtout qu'un standard les y oblige depuis 2011. Pis encore, dans la catégorie commerciale, un médiocre 7% de commerçants souhaitent que j'aie accès à ces produits et services. On ne parle pas ici de rénover un bâtiment patrimonial, mais simplement de bâtir des sites et/ou applications qui répondent aux normes d'accessibilité universelle, chose que tous les programmeurs qui se respectent devraient connaître. Permettez cette petite mise au point. De plus en plus, l'expression « handicap » se voit substituée par « limitation fonctionnelle ». Pourquoi? Parce que le handicap est très souvent causé par l'homme plutôt que par une morphologie inadéquate. Par exemple, moi qui aime me farcir une bonne série de temps à autre, je peux profiter de presque tous les contenus originaux produits par Netflix grâce au choix corporatif d'y ajouter une vidéo description, VD. Alors qu'il n'y a rien du genre en français via les applis d'ici, tout.tv ou illico. Ce ne sont pas mes yeux qui me permettent ou m'empêchent d'en profiter ici, mais bien des décisions humaines. Pour un ami, le fauteuil roulant l'aide à pallier à certaines limites de son corps jusqu'à ce qu'il se bute à une marche de commerce ou une navette fluviale qui lui refuse le voyage jusqu'au Vieux-Port. Même résultant, il est handicapé par des choix d'administrateur obtus. Pourquoi un individu et ou une société accepte encore d'imposer des situations handicapantes pour une partie importante de sa collectivité? Comment se fait-il que cela puisse être encore tolérable et toléré? D'où la question initiale : suis-je une personne handicapante malgré moi? Mon commerce, mon site web, mon service, est-il vraiment disponible à tous? Si oui, bravo. Je sais que je parle pour plusieurs en disant que le jour où notre société cessera de trouver des excuses pour nous empêcher d'avoir accès aux mêmes possibilités que tous, je ne verrai toujours pas les beaux couchers de soleil, mais je serai tellement moins handicapée. C'était « Est-ce qu'on peut être handicapé à cause des autres ?» Oui, un texte de Luc Fortin, paru le 3 juillet 2019 dans Urbania.
Un expert en matière de handicap démissionne du groupe consultatif fédéral. Un texte de la presse canadienne paru le 19 avril 2024 dans l'actualité. L'un des principaux spécialistes en matière de handicap au Canada quitte un comité consultatif fédéral affirmant que le gouvernement n'a pas réussi à financer adéquatement les prestations d'invalidité. Michael Prince, professeur de politique sociale à l'Université de Victoria, s'est dit profondément déçu par la prestation canadienne pour les personnes handicapées. Il a démissionné du groupe consultatif de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des personnes en situation de handicap, Kamal Khera, après avoir conclu que sa voix ne faisait plus de différence. M. Prince croit que le montant du financement prévu dans le budget fédéral, déposé cette semaine, est trop faible, couvre trop peu de personnes et est trop difficile d'accès. Le gouvernement réserve 6,1 milliards sur 5 ans pour gérer le programme et a fixé la prestation annuelle maximale à 2 400 $ par personne. Cela équivaut à 200 $ par mois, soit environ 6 $ par jour. Les défenseurs des droits des personnes handicapées, qui ont unanimement exprimé leur déception à l'égard du programme depuis la publication du budget, soutiennent que ce montant est bien en deçà de ce qui est nécessaire pour aider les quelque 1,2 million de Canadiens handicapés qui vivent dans la pauvreté. Selon M. Prince, le gouvernement estime que cette prestation ne bénéficiera qu'à 600 000 personnes et ne sera disponible qu'en 2025. Les libéraux parlent depuis des années de la création d'un programme de prestation d'invalidité. Ils ont présenté un projet de loi en 2021, mené de longues consultations, et ont finalement adopté la loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées en juillet 2023. L'intention déclarée de la loi est de créer une prestation destinée à réduire la pauvreté et à soutenir la sécurité financière des personnes handicapées en âge de travailler. Contrairement aux déclarations précédentes sur les effets attendus de la prestation canadienne d'invalidité, il n'y a aucune mention dans le budget d'effets significatifs sur la réduction de la pauvreté, a écrit M. Prince dans sa lettre de démission. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a défendu le programme lors d'une conférence de presse à Toronto vendredi, affirmant que les libéraux avaient fait plus que tout autre gouvernement fédéral dans l'histoire pour aider les personnes handicapées. « Ce serait formidable de pouvoir faire plus et nous aspirons à cela », a-t-elle assuré. Mme Freeland a également souligné que son gouvernement travaillerait avec les provinces et les territoires pour garantir que l'argent fédéral n'entraîne pas la récupération d'autres avantages. Les partisans de cette mesure avaient fait de fortes pressions pour inclure des dispositions spécifiques à ce sujet dans la loi, mais les libéraux ne les ont pas incluses. M. Prince a déploré que le gouvernement n'a pas réussi à assumer une forte responsabilité dans ce dossier. L'histoire nous a enseigné que les réformes majeures en matière de soutien aux revenus viennent souvent du leadership fédéral en matière d'investissement et de réforme des programmes, a-t-il ajouté dans sa lettre. C'était « Un expert en matière de handicap démissionne du groupe consultatif fédéral ». Un texte de la presse canadienne paru le 19 avril 2024 dans l'actualité.
Les personnes handicapées ne sont pas inspirantes. Un texte de Kevin Breton paru le 15 août 2016 dans Urbania. C'est l'histoire d'une jeune femme dans la fin vingtaine à la recherche d'un emploi. Elle vient de compléter son bac en marketing qu'elle a obtenu après un retour aux études. Appelons-la Virginie. Elle est motivée, mais ça fait un an qu'elle cherche et qu'elle ne trouve rien. Elle actualise chaque matin le grenier aux emplois. Elle va à des soirées de réseautage. Même si elle déteste ça, regarder des vestons en contre-plongée. Elle met à jour son curriculum vitae chaque semaine, se disant qu'en modifiant les petites icônes à côté de coordonnées, ça rendrait le document plus coquet. Elle retourne chez elle en autobus. Une dame âgée s'assoit à côté d'elle et les deux entament une discussion. Virginie explique ses démarches pour trouver un emploi. « Ça doit être difficile quand tu es handicapée », réplique la madame. « Oui, c'est vrai. Virginie est en fauteuil roulant. Et oui, l'employabilité, c'est un gros défi pour une personne handicapée. Quand ce ne sont pas des obstacles humains, l'attitude d'un patron méfiant, ce sont des vrais obstacles architecturaux. Votre candidature est intéressante. Aimeriez-vous passer une entrevue mercredi prochain au deuxième étage de notre édifice sans ascenseur? » Mais voilà, Virginie garde espoir. La dame sonne la cloche et sort au prochain arrêt en l'encourageant. « Vous êtes inspirante. Mon fils, il a 30 ans, il a ses jambes et il habite encore chez moi. Il ne fait rien pour se trouver une job. Il devrait s'inspirer de vous. Je vais lui parler de votre histoire. Ça va lui donner une bonne leçon. » De bons mots, mais un peu convenus, que Virginie a déjà entendu des millions de fois. Elle remercie quand même la dame de ses encouragements. Le lendemain, bénédiction, elle reçoit par hasard un appel pour une entrevue. Dans un lieu accessible, un poste pour lequel elle est qualifiée, qui ne demande pas 10 ans d'expérience. L'entrevue se passe bien, mais les jours suivants passent aussi sans nouvelles. Son espoir d'entendre le téléphone sonner diminue, diminue et disparaît. Un autre essai à mettre dans la pile des tentatives échouées. Virginie reprend la 30 et croise la même dame qui l'approche tout sourire. « Vous ne devinerez jamais, mon fils a décroché un emploi. Un peu grâce à vous, ça. » Merci d'exister, simplement. Merci d'exister. Oh! Remarquant la mine déconfite de sa copassagère, la dame tempère son enthousiasme et s'informe. « Et toi, ma chère, la recherche d'emploi? » « Comme ci, comme ça. J'ai eu une entrevue, mais... » « C'est déjà bon? Il faut pas lâcher. C'était où, ton entrevue? » La vieille dame écarte les yeux devant la réponse de Virginie. « Oh non, cette même entreprise, le même nouveau poste, oups, ouais. » Cette anecdote résume assez bien le dédain que j'entretiens pour cette admiration automatique que l'on porte aux personnes handicapées. « Pourquoi donc est-ce qu'on aime tant me qualifier, moi et d'autres, d'inspirant? À quoi ça sert? Et surtout, à qui ça sert? Ce n'est pas malveillant. C'est quasiment un réflexe. L'adjectif « inspirant » colle si bien à notre préconception du handicap. Parfois, dans la rue, on m'arrête simplement pour me féliciter d'être là. « Vous êtes sorti tout seul aujourd'hui? Comme vous êtes inspirant! » Je n'ai le temps de traverser qu'une seule allée de fruits et légumes à l'épicerie, qu'on me félicite de mon sublime courage, d'avoir su mettre des pantalons pour la première fois en cette fin de semaine pour acheter chips, sel et vinaigre. Une attitude maladivement récurrente. On me qualifie souvent d'inspirant pour le simple motif d'exister. Le moindre geste que celui d'attendre dans la rue sans avoir la mine défaite est un acte héroïque qui vaut d'être salué par des passants. tu aurais toutes les raisons de te plaindre. Mais regarde-toi, tu souris. Merci. De l'inspiration en canne, consommable en une bouchée, suffisamment pour aider des personnes sans handicap à se sentir mieux à propos d'elles-mêmes. Qui peuvent instrumentaliser l'existence d'un autre, la maquiller en courage à des fins personnelles. Il y a des soirées où je rentre tard avec ma meilleure amie. On passe à côté d'un homme qui lui scande combien elle est Mère Teresa de simplement être à mes côtés. Parfois, même fréquemment, quand je remets de l'argent à un itinérant, il refuse ma monnaie. C'est toi qui en aurais besoin, mon brave. La vie des personnes handicapées est, oui, obstruée par une société mal construite qui, au mieux, l'ignore, au pire, l'oppresse. Mais elle est configurée, comme la vôtre, comme celle de bien d'autres populations marginalisées, en victoire, en défaite, en chagrin, en joie, en nuances de beau et de laid, et elle mérite d'être traitée comme telle. Pourquoi alors tous ces discours? Parce qu'on vous a convaincu que le handicap était mauvais et tragique, qu'on souffrait d'un handicap et non qu'on vivait avec celui-ci, qu'on réussissait malgré ou en dépit de notre handicap et non avec celui-ci. Combien de fois dans les médias on m'a décrit comme quelqu'un de confiné ou pire, de cloué à un fauteuil roulant? Mais c'est correct, car les handicapés sont dotés de cette exceptionnelle capacité à toujours voir la vie du bon œil. Pas besoin de les aider dans leur démarche d'emploi, de leur construire des rampes d'accès, car ils sont braves. Et le seul handicap dans la vie, c'est une mauvaise attitude. Et quand quelqu'un réussit de petits exploits, comme sortir de chez soi, on s'étonne évidemment. Cela correspond à notre vision de la personne handicapée et de son histoire forcément tragique. Regarde comment elle se dépasse chaque jour. C'est touchant, c'est réconfortant. Mais voilà, la personne handicapée est plus qu'un prétexte pour se motiver, qu'une incarnation du dicton « quand on se compare, on se console » ou qu'un bibelot cassé dont on s'émeut. En la qualifiant d'inspirante, vous ne l'aidez pas. En sous-entendant que sa vie n'est pas enviable, vous ne faites que vous servir vous-même. C'était « Les personnes handicapées ne sont pas inspirantes », un texte de Kevin Breton, paru le 15 août 2016 dans Urbania.